oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on évoque là.
Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Luc la liberté.
Bonjour Luc.
Oui, bonjour Guillaume.
Luc, on se souvient là lors de l'insurrection, de la tentative d'insurrection du 6 janvier, il y avait un groupe qu'on appelait les Oath Keepers. Et c'était un peu tombé sur le radar de la terre entière à ce moment-là. Il y en a qui avaient été arrêtés et là il y a des nouvelles condamnations là qui viennent d'arriver sur notre radar. Qu'est-ce qu'il y en a exactement?
Écoute, on en avait déjà eu parce que il s'agissait d'un gros groupe. On avait 9 personnes au total dont qu'on accusait de complot séditieux. Il y a déjà un individu qui, lui, en échange de témoignages, avait plaidé coupable pour complot séditieux. À la fin du premier procès, on avait le meneur des Oath Keepers et un autre membre qui avait été reconnu coupable de complot séditieux. On en était donc à 3. Et depuis hier, on compte 4 nouveaux responsables de complot séditieux. Donc, on sait que autant démocrates que républicains, l'ont fait, bien entendu, de la politique avec cet événement-là. On le récupère, on ajoute à ça, on saupoudre un peu de propagande par-dessus. Reste que quand on se tourne vers les faits, c'était plus qu'un groupe un peu trop enthousiaste qui s'est présenté le 6 janvier 2021. Moi, ce qui continue encore à me préoccuper, ou à tout le moins, en tout cas, à attirer mon attention, c'est qu'on sait, de par les travaux de la commission du 6 janvier, janvier 2020, des témoignages qui provenaient de républicains. On sait que des membres de la garde rapprochée de Donald Trump et M. Trump lui-même ont eu des communications avec les Oath Keepers et ont au moins un autre groupe d'extrême droite. On sait très bien que Merrick Garland attend toujours le travail ou les recommandations du procureur spécial, à savoir, va-t-on accuser éventuellement Donald Trump ou pas? Mais chaque reconnaissance, finalement, de sanctions, chaque reconnaissance des accusations, on en est rendu, je répète, là, à 7 au total reconnus coupables de complot séditieux. On va peut-être en ajouter d'autres, parce que l'autre groupe d'extrême droite qui a participé au 6 janvier, on n'a pas eu les procès encore. Est-ce que tout ça ne va pas nous ramener éventuellement, peut-être pas au sommet de la pyramide, à Donald Trump lui-même, mais peut-être à sa garde rapprochée ou à des gens qui travaillaient pour l'organisation, autant à la Maison-Blanche que pour le Parti républicain? C'est là où ça devient encore plus intéressant. Ça atteste du fait que c'est bel et bien grave et c'est pas une vue de l'esprit de s'imaginer que ce qui s'est passé le 6 janvier, c'est très important et que c'est de l'inédit en histoire américaine, mais c'est qu'il pourrait y avoir aussi d'autres avenues à emprunter à partir de ces sanctions-là, de ces jugements-là, Guillaume.
Ouais, puis là, est-ce que tu le disais bien, est-ce qu'on va pouvoir remonter au sommet de la pyramide? Parce que voilà. Même s'il n'y a pas de preuves directes pour le président Trump, il y a quelqu'un qui faisait le message entre les deux, là, entre les Oath Keepers, voilà, pour coordonner la manif du 6 janvier, et quelqu'un qui travaillait pour le président des États-Unis. En soi, c'est déjà, je veux dire, si on n'avait pas déjà vu la totale avec Trump, juste ça dans une autre décennie, ce serait assez pour que tout le système politique américain soit en train de discuter de ça, là.
Écoute, imaginons ça de notre côté de la frontière, là, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement, et qu'on arrive à faire Écoute, pour nos auditeurs, là, c'est très rare qu'on accuse des gens de complot séditieux. C'est exceptionnel. Et c'est encore une coche au-dessus, si on veut, hein, ou une exigence.
C'est énorme. Alors, juste, Luc, explique-nous.
Que d'arriver à le prouver.
Complot séditieux, qu'est-ce que ça veut dire, là, pour les gens qui nous écoutent?
Écoute, on a dit, par exemple, c'est en lien direct avec ce qui a précédé, là, on a dit il y a eu des tentatives de ne pas reconnaître les résultats de l'élection 2020. On l'a fait de façon légale, ça allait, on a eu des recours devant les tribunaux. De l'autre côté, M. Trump, en passant comme intermédiaire par M. Pence, c'est ce qu'on te demande de faire, Mike, c'est de ne pas reconnaître, de ne pas certifier les résultats. Et quand on le fait et qu'on va de l'avant, il y a ensuite cette meute qui se déchaîne et qui se lance sur le Capitole. C'est donc carrément une obstruction au système américain et c'est une tentative de renverser les résultats, rappelons-le, soulignons en caractère gras, les résultats légitimes d'une élection. Donc, on hésite parfois à parler de coup d'État, hein? On est en 2023, c'est le genre de choses qu'on n'imaginait pas, tu le disais, il y a une dizaine d'années par rapport à des régimes démocratiques bien implantés, le solide en Occident. C'est ça à quoi on a eu droit le 6 janvier 2021.
C'est absolument à la fois épeurant, mais intéressant de voir quelle sera la suite. Luc, restons dans le domaine presque de l'épeurant, mais du beaucoup trop habituel. Déjà, les gens m'écrivaient, là, c'est les nouvelles des tueries aux États-Unis et au pluriel. Là. Déjà, on savait qu'il y en avait beaucoup, mais là, il y en a eu comme pas mal sur un petit coin de pays. Fais-nous le portrait de ça un peu, là.
Écoute, on a eu 3 tueries successives dans le même État. Donc, en Californie, 3 jours d'affilée, 3 tueries. On en est, pour donner une bonne idée, encore une fois, je déteste ces statistiques-là, mais elles sont tellement importantes. On en est à 3 semaines dans le mois de janvier, donc en 2023, on en est à la 38e tuerie. La définition d'une tuerie étant quand il y a 4 victimes et plus. On en est déjà à 38, beaucoup plus de tueries que de journées qui se sont écoulées en 2023. Ce qui rend la problématique encore plus difficile à gérer en termes de couverture, d'analyse, puis pour tous ceux qui essaient de dire que doit-on faire, que va-t-on faire, la Californie est un des États où, quand on parle de législation pour mieux encadrer l'accès aux armes, la circulation des armes, le port d'armes, la Californie est un des États les plus sévères là-dessus. Et Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, à qui on a déjà prêté et qu'on prête encore d'ailleurs des ambitions présidentielles, M. Newsom dit, nous en Californie, on a fait ce qu'on peut faire, on est au maximum du cadre législatif. Ce que j'ai envie de reprocher à M. Newsom, c'est bien au plan politique de jouer cette carte-là, et je pense qu'effectivement, au fédéral, les politiciens doivent intervenir. Mais ce qu'on ignore toujours dans ce temps-là et ce qu'on omet de faire, c'est de réaliser à quel point cette société-là, et ça c'est le prof d'histoire qui prend le relais cette fois-là, elle a une histoire qui est violente. La violence est dans leur ADN. Quand on regarde le nombre de guerres auxquelles les Américains ont participé, c'est sidérant. On a un collègue qui travaille pour le 24 heures qui s'appelle Julien Corona qui disait, écoute, c'est pas rien. Il y a plus de civils morts par arme aux États-Unis cette année, dans la dernière année, qu'il y en a eu sur le terrain en Ukraine.
C'est quand même incroyable.
Qui vit la guerre. Écoute, si ça, c'est pas hallucinant comme chiffre, et si ça suffit pas à saisir les gens, ça montre bien le désarroi qui entoure la gestion, ou en tout cas la quête de solutions, de remèdes ou d'amélioration à cette situation-là aux États-Unis. Ouais. Je le répète, hein, c'est statistiquement appuyé, plus de gens morts d'armes à feu aux États-Unis, ils sont pas en guerre sur le territoire, qu'il y a de civils morts en Ukraine, alors qu'on le sait, M. Poutine et les Russes sont responsables de l'invasion depuis février 2022.
C'est fascinant. Luc, je te pose une question, je me doute de la réponse, mais je sais que à chaque fois que ce genre de tuerie-là, il y a, peut-être plus au Canada, au Québec, des gens qui disent « Ah ben voilà ce qui va être l'élément déclencheur d'une vaste réforme des droits et des restrictions touchant les armes à feu. Ça va changer, là, c'est sûr. » Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là qui partagent cet espoir-là? Mais voici pourquoi ça n'arrivera pas, là.
Moi, j'ai arrêté comme commentateur, puis comme, sérieusement, amant des États-Unis. J'aime ce pays-là avec ses grandeurs et ses misères. J'y vais régulièrement. J'ai arrêté de rêver après la tuerie de Sandy Hook. Je me suis dit, si on entre dans une école primaire et qu'on massacre gratuitement des enfants, qu'une arme semi-automatique est entre les mains de quelqu'un qui, à l'évidence, ne devait pas en avoir, n'avait pas la santé nécessaire, la santé mentale nécessaire pour gérer ça, si ça n'a pas suffi à émouvoir les politiciens et les lobbyistes, c'est pas ce qui s'est déroulé en Californie dans les 3 derniers jours qui va changer la donne. Et j'insiste, n'insistez que sur la question de le cadre législatif. N'insistez que sur ça, c'est pas suffisant. La société américaine a un filet social qui est plein de trous. Il y a une question raciale qu'on hésite de confronter ou encore qu'on fait, mais en la polarisant à l'excès, comme c'est le cas actuellement aux États-Unis. Et on ajoute à ça un accès aux armes à feu puis une circulation d'armes légales et illégales qui est absolument aberrante. Et le chantier, il est vaste. Si on espère que ça va se régler dans la prochaine année ou dans un prochain mandat, si M. Biden revient ou qu'il ne revienne pas, les solutions sont à long terme. Et c'est une prise de conscience collective. En sont-ils capables? Le pays est né à partir de la Déclaration d'indépendance en 1776. Ils nous ont pas montré depuis tout ce temps-là qu'ils étaient capables d'en arriver à une solution. Le problème ne va au contraire qu'en empirant.
Oui, souvent, quand il y a des nouvelles, ça c'est démontré, plus il y a de nouvelles sur des tueries, des nouvelles tueries, plus la vente d'armes augmente, hein, comme si la manière de se protéger, c'était ça.
Et c'est un cercle vicieux, Guillaume, mais j'ai déjà dit, puis ça me gêne pas de le réaffirmer, à certains endroits aux États-Unis, si j'habitais là, considérant ce que je t'ai dit tout à l'heure sur l'historique, la culture, le filet social, j'aurais une arme à feu à la maison. Je n'en ai pas à Québec, je sens pas le besoin d'en avoir. Mais aux États-Unis, j'en aurais une à la maison.
Mais je te le reproche pas, j'ai des amis en Caroline du Nord, de bons démocrates, qui se croient à gauche là par rapport au reste, qui m'ont dit récemment, nous pensons à acheter une arme. Et c'est pas parce qu'ils veulent aller au club de tir, là, c'est par volonté ou croyance qu'ils devront peut-être recourir à ça pour se protéger. Luc, d'un côté, il nous reste pas tant de temps que ça, fait que c'est peut-être une bonne nouvelle, mais je veux qu'on en parle. Écoute, il y a un débat aux États-Unis qui est surréel, qui enflamme là les Fox News et les autres. Et là, mesdames et messieurs, ce n'est pas des blagues, les MMM. Alors, parle-nous de ça, là.
Écoute, c'est à la fois loufoque, totalement absurde, et en même temps, c'est important comme sujet à aborder. Toi et moi, on a étudié pendant des années pour finir par parler de bonbons à la radio et à la télé. les fameux M&M's, on a voulu, comme c'est le cas de Mini, quand on fait de la mise en marché, quand on veut revamper un peu la marque, quand on veut moderniser, quand on étudie notre clientèle, on a dit, écoutez, on va marquer le coup, on va se servir de nos fameux bonbons, on va en faire des personnages qui vont souligner un certain nombre de choses. Entre autres, ce qui a soulevé beaucoup de controverses, on a voulu souligner ces femmes fortes qui se démarquent. Donc, et on s'est mis à afficher sur les pochettes, ces fameuses enveloppes de M&M, des personnages dont les caractéristiques ont déplu énormément, en grande majorité, aux conservateurs, à des conservateurs en particulier. Et le chef de file de ce mouvement qui considère que maintenant les M&M sont trop woke et que c'est une menace pour la société américaine, c'est Tucker Carlson. Donc, ça ne s'invente pas. Il est littéralement parti en guerre et ça a créé un mouvement de résistance, grosso modo, à mort les woke, et ça passe par les M&M. Et M&M est tellement pris, donc c'est la compagnie, c'est Mars qui gère les M&M. Et la compagnie a dit, écoutez, nos commémorations, là, puis la diversité, l'inclusion, on va mettre ça sur la glace en attendant, puis vous allez, en très mauvais français, manger vos M&M straight. Donc, on va vous les présenter uniquement avec les couleurs d'origine, sans leur associer des qualités physiques, par exemple, que certains ont interprété de toutes sortes de manières. M. Carlson, il a vu des lesbiennes, il a vu une ode aux obèses, une identité de genre trop floue. Il y a imaginé un certain nombre de choses et honnêtement, pour avoir déjà dégusté des M&M, c'est autre chose que, un, faudrait pas que mes enfants en mangent trop, puis deux, c'est pas si bon que ça. M. Carlson, il y avait un symbole, je suis superficiel, M. Carlson, il y avait un symbole beaucoup plus lourd et grave que ça.
Écoute, Luc, toi et moi, nous sommes des amoureux de cette société, de l'histoire de ce pays.
Ouais, tout à fait.
Et là, vraiment, je pense que les États-Unis rivalisent d'ingéniosité pour tester notre amour dans ces derniers retranchements. Alors, là-dessus...
Ah, quelle belle formule pour terminer.
Homer Simpson disait, on se fait pas d'amis en mangeant de la salade. Peut-être on se fait plus d'amis en mangeant des M&M non plus. OK, on se reparle demain. Bye-bye, Luc.
Bonne fête de journée, Guillaume.